Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Vous connaissez le principe de l'émission, hein. On vous résume l'actu tech en une heure environ et puis on essaye de vous expliquer les choses qui sont pas toujours faciles à comprendre. Tout ça dans la bonne humeur avec des analyses intéressantes. J'espère en tout cas, c'est le but. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir après son escapade de vacances Marion Doumingue qui nous revient. J'ai l'impression du paradis, du pays des rêves. J'ai suivi en fait tes photos, enfin ton voyage avec les photos que vous postiez, Jérôme et toi, sur Instagram. Je le disais à Jérôme, je crois, la dernière fois. C'était incroyable.
Oui, alors c'est vrai qu'après, on en a beaucoup, beaucoup profité et on a sélectionné les meilleures photos, évidemment, à mettre sur Instagram. Mais c'est toujours un privilège de pouvoir vivre ce genre d'expérience, hein.
Oui, bah ça s'appelle les vacances, effectivement.
Pouvoir partir à l'étranger aussi loin, etc. Enfin, tout le monde ne vit pas les vacances de cette manière-là.
C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, elles avaient l'air incroyables avec vos photos. Et je recommande, si vous voulez vous changer les idées et vous dépayser, quand Marion et Jérôme partent en vacances, il faut absolument suivre leur Instagram. Bon, il faut suivre leur Instagram de toute façon, mais quand ils partent en vacances, c'est encore mieux.
Okay. Il faut suivre en connaissance de cause, hein, parce que j'ai eu des collègues qui, à mon retour, m'ont dit « je te hais ». J'ai eu le malheur de te suivre sur Instagram.
Maintenant, je te déteste. Bon, écoute, non, moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Donc, merci d'être de retour pour cette émission où on va avoir des sujets quand même assez épineux, intéressants, compliqués. Il y a notamment l'arrestation de Julian Assange, avec laquelle je voulais pas commencer parce que je me suis dit on va commencer par un truc un petit peu plus cool. Mais en même temps, il y a cette histoire qui a fait les gros titres, selon laquelle Amazon écoute ce que vous dites chez vous grâce à ses Alexa, ses assistants. Et ça aussi, c'est un petit peu compliqué à dépatouiller quand on n'est pas très au fait de la situation. Et je pense qu'on va pouvoir expliquer aux gens de quoi il s'agit. Et justement, j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous encourager en fait, j'avais parlé il y a quelque temps de la question de la confiance que vous faites en cette émission pour vous fournir une heure de tech intéressante et pour vous expliquer peut-être un petit peu les choses de manière compréhensible. Et là, j'aimerais faire un deal avec vous, avec les auditeurs qui ne sont pas encore soutiens du Rendez-vous Tech sur Patreon. Le deal, c'est que si jamais au bout de l'émission, vous en ressortez en vous disant « Ouais, quand même, là, je comprends mieux » ou « J'ai un petit peu plus de nuances dans ce que je pensais, j'ai pris le temps de réfléchir à tout ça » et du coup, ça m'a apporté quelque chose, là, considérez l'idée de soutenir l'émission parce que c'est notre travail, c'est ça qu'on travaille dur pour faire ces choses-là, ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de dédication et évidemment le soutien n'arrive que par Patreon. Donc si au bout de l'émission vous dites « ouais, quand même, là ça m'a apporté quelque chose », faites un petit tour sur Patreon pour voir si ça pourrait vous intéresser, comme le font d'ailleurs Martha Anadon Rosinac, Maël Costeau, The French Visitor, Aubin Huette, PP75, Peter Bréjassou et Arias et tous les autres auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement de la manière qu'ils le veulent avec le contrôle qu'ils ont. Donc pensez peut-être à faire ça. Et donc,
sinon, il y a aussi d'autres émissions de Patrick qui sont très très bien, comme le Phileas Club, que moi j'aime tout particulièrement.
Ah, c'est gentil, c'est gentil. Le Phileas Club en anglais, effectivement, qui est une émission où on essaye de confronter nos opinions à un niveau international. Donc là aussi, il y a des choses à faire, des choses à écouter. Mais commençons par la tech, commençons avec justement Alexa. Je crois que l'arrestation de Julian Assange est l'information la plus importante peut-être, mais c'est aussi la plus, je ne vais pas dire déprimante, mais la plus sérieuse. Donc même si Alexa c'est sérieux aussi, on va commencer avec ce sujet. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un article de Bloomberg qui a révélé des informations selon lesquelles, dans certains cas, les commandes qu'on donne à nos assistants personnels d'Amazon, donc Alexa en particulier, sont écoutées par des gens, par des gens, des employés d'Amazon. Et ça a donné lieu à un certain nombre de gros titres qui étaient, je crois, assez trompeurs et qui avaient tendance à faire cette chose que j'aborde, c'est-à-dire faire un gros titre inquiétant, buzzy, pour que vous cliquiez dessus, avec des informations qui sont effectivement peut-être préoccupantes d'une certaine manière, mais qui ne sont pas du tout aussi inquiétantes que ne le laissent penser ces gros titres. Donc, allons au-delà des gros titres et parlons de la controverse factuellement. D'abord, le principe des enceintes connectées, qu'est-ce que c'est ? La plupart d'entre vous savent comment elles fonctionnent, mais on va revoir la chose très rapidement. Le principe, c'est que les assistants personnels ont une enceinte et un micro. Le micro écoute ce que vous dites en permanence, mais il l'analyse dans une mémoire locale, c'est-à-dire qui est uniquement dans l'appareil que vous avez acheté. Et ce que vous enregistrez, ce que vous dites en permanence ne quitte jamais l'appareil local. Il l'analyse, il cherche le mot-clé, que je ne vais pas dire ici, mais que vous connaissez bien, et ils fonctionnent tous de cette manière. Donc, les assistants personnels cherchent le mot-clé en local. Quand ils détectent le mot-clé, à ce moment, ils envoient la phrase que vous avez dit après le mot-clé au serveur du fournisseur de service pour être analysé, pour analyser cette partie. Donc, il y a énormément de recherches en sécurité qui sont faites pour vérifier que c'est bien de cette manière que ça fonctionne. Et les chercheurs n'ont jamais trouvé d'envoi de données. Alors, ça, on peut toujours, si on est super parano, se dire oui, mais ça se fait quand même. Franchement, il faut avoir un chapeau en aluminium sur la tête pour vraiment y croire à ce stade. Les informations ne sont transmises que quand le mot-clé est détecté. Sinon, ça reste en local. Et donc, ça veut dire que, déjà, à la base, encore une fois, la plupart d'entre vous le savaient, je pense, mais à la base, ce n'est pas toutes vos conversations qui sont envoyées sur les serveurs pour être analysées. Donc ça, c'est la base du fonctionnement. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est que tous ces services utilisent du machine learning pour comprendre ce que vous dites. Et le machine learning, alors il y a plusieurs méthodes de machine learning, mais la méthode principale, c'est a besoin d'être entraîné et d'être entraîné en permanence pour s'améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire d'être entraîné ? C'est-à-dire qu'on va prendre les données que doit analyser le système et on va lui donner des labels, on va lui donner des informations supplémentaires. On le sait quand on analyse, par exemple, quand on entraîne les systèmes qui font de la reconnaissance d'images, eh ben, on va lui donner des images où on va dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est une personne. Et on va lui en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes et c'est comme ça qu'il va commencer à reconnaître. En l'occurrence, tous les services Google, Apple, Amazon font cet entraînement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des extraits de phrases et il y a certains cas où les systèmes ne sont pas encore assez bons pour comprendre ce que veulent dire les utilisateurs et donc ils vont aider le système. Un exemple qui était donné dans l'article de Bloomberg, c'est pour reconnaître Taylor Swift. Taylor Swift, c'est bien sûr la chanteuse, mais en anglais, ça peut aussi vouloir dire le tailleur rapide. Taylor, c'est tailleur, Swift, c'est rapide. Et donc, ils prennent des exemples de personnes qui ont d'utilisateurs réels qui ont été enregistrés en disant Taylor Swift et ils indiquent au système ça c'est la chanteuse et pas un tailleur. Donc ça c'est le principe selon lequel fonctionne tout, encore une fois c'est pas juste Amazon, tous les assistants personnels. Dans le cas d'Amazon, il y a un problème parce que les informations, donc les extraits audio étaient envoyés aux personnes qui font ce traitement avec des informations personnelles. Et c'est là que le problème intervient. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, des informations sur l'appareil spécifique, le numéro de série, des informations personnelles identifiables. Je ne sais pas si c'était le nom spécifiquement, mais je crois qu'il y avait le numéro du compte, etc. etc. Alors que dans le cas de Google, le traitement se fait avec les informations personnelles qui sont complètement retirées de l'extrait. Donc, ça veut dire que les personnes qui traitent ces informations ne vont pas pouvoir les associer à une personne spécifique. Bien sûr, dans le système de Google, l'association existe parce que ils ont un profil sur vous et donc, il y a toutes ces histoires, vous savez, de pub, etc. Donc, l'information reste dans le système, mais les personnes qui vont effectivement entendre l'extrait audio ne vont pas savoir d'où vient cet extrait audio. Et enfin, le cas d'Apple, qui bien sûr se base sur la question de la vie privée depuis longtemps. Dans le cas d'Apple, c'est encore plus poussé, puisque les extraits enregistrés, tous les extraits enregistrés, sont complètement séparés des informations de l'utilisateur, avec des numéros aléatoires, ce genre de choses. C'est-à-dire que Apple, s'ils ont un extrait audio dans leur système, ils ne sauront pas, eux, retrouver l'origine de l'extrait audio. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus anonymisé. Alors, bien sûr, vous avez l'extrait qui va être utilisé à l'instant où vous faites votre requête, mais il ne peut pas être au-delà de ça. Quand ils font l'analyse, par exemple, pour l'entraînement, il ne peut pas être associé à quelqu'un. Donc voilà la manière dont ça fonctionne. La controverse vient du fait que Amazon fait ça avec des informations personnelles. Ils disent qu'il y a, pour se défendre, ils ont dit on a un petit nombre d'échantillons qui sont analysés de cette manière. Le problème dans ce genre de communication, c'est toujours cette idée de petit nombre. Moi, ça m'irrite énormément parce que petit nombre, ça veut rien dire. Petit nombre, est-ce que c'est 0,1% qui représente toujours des millions et des millions de requêtes, peut-être on ne sait pas. Et donc, ça, c'est un petit peu problématique. Mais quoi qu'il en soit, ça ne veut pas dire que les employés d'Amazon écoutent toutes vos conversations. On a même eu la confirmation que l'accès à ces données était protégé par un login avec double facteur, authentification double facteur. Il y a des protections supplémentaires qui sont mises sur le système. Donc voilà, il n'y a pas de quoi paniquer. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça pose pas forcément des problèmes potentiels. Marion, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? Est-ce que c'est quand même problématique ou est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ?
Je pense que là, on touche à quelque chose d'assez émotionnel aussi. C'est comme tu le disais, un petit nombre. Même si on avait le nombre, je ne suis pas sûre que ça changerait grand-chose dans l'opinion des gens, en fait. Parce qu'ils se disent, il y aura toujours une chance que moi, je sois écoutée, en fait, qu'une de mes conversations soit écoutée. Donc là, on touche vraiment à quelque chose de l'intimité, de l'émotionnel. Tu disais tout à l'heure que, de toute façon, ils n'enregistrent pas les conversations quand il n'y a pas le mot-clé qui va déclencher l'enregistrement. Il faut savoir quand même que ils informaient que les personnes qui écoutent ces extraits, ils en écoutent jusqu'à 1000 par jour. Ils disaient qu'il y avait au moins une centaine par jour qui étaient déclenchées par accident où il n'y avait pas justement la commande clé. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la capacité d'Alexa à reconnaître et à comprendre une vraie commande où Alexa serait déclenchée, en fait. Ce qui est pas,
c'est vrai qu'en français, par exemple, visiblement, il y a un souci parce que quand on dit « avec ça », eh ben, ça déclenche le truc. Bon, ça
et
reste.
C'est pareil en espagnol, ouais. Il y a aussi un mot qui peut déclencher Alexa par erreur. Mais des fois, tu vois, on le voit avec l'ami d'Apple, il se déclenche sans même qu'il y ait un mot qui ressemble.
C'est vrai, ça m'arrive régulièrement, ouais.
Donc,
ça reste des extraits courts, quoi.
Exactement, c'est pas 100% garanti.
D'accord, voilà. Ouais.
Mais après, le fait d'observer l'usage d'un service a toujours existé à but d'améliorer ce service. Ça existe sur le web où on va regarder comment vous naviguez sur un logiciel, comment vous utilisez un logiciel ou naviguez sur un site internet. Ça, on le fait. Donc, évidemment, le pendant est également fait sur ces assistants vocaux, quoi. En tout cas, moi, je suis pas. Après, je travaille pas exactement les assistants vocaux, mais je travaille dans ce domaine internet avec ces services. Donc, je suis pas du tout étonnée par la pratique. Là où je peux comprendre la méfiance des personnes, c'est aussi que cela vient d'Amazon et on associe un peu Amazon, Google, un peu dans le même panier en utilisant ces données d'usage pour faire de la publicité ciblée ou justement montrer tu as demandé la dernière chanson de Taylor Swift, et ben écoute, on va te proposer son dernier album sur la première page d'Amazon, par exemple. C'est ce genre de corrélation qui peut devenir assez désagréable.
Oui, mais ça, c'est le système des assistants personnels et des profils construits par toutes ces sociétés, effectivement, qui existent. C'est un petit peu séparé de la question de les employés écoutent vos conversations, entre guillemets, qui a été mise en avant. Je dirais
c'est
que
pas,
là...
C'est pas si séparé que ça, parce que justement, ça accroît ce sentiment d'être écouté.
Ouais, tu sais, émotionnellement, tu veux dire. Ouais.
Exactement, là, on est vraiment lié au sentiment. Tu sais, tu as entendu parler de la rumeur comme quoi ce que vous dites dans les conversations est écouté par Facebook, parce qu'après, sur Instagram, tu retrouves dans Messenger, les DM dans Messenger sont utilisés, parce qu'après, sur Instagram, tu retrouves des pubs de choses que tu avais parlé ailleurs. Et donc, les gens disent, on nous écoute, on nous espionne, etc. Donc, ça accroît ce sentiment on n'est plus en sécurité chez nous, notre intimité est pénétrée par ces géants du web, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est pas forcément évident de trouver la juste limite par Amazon et Google de customiser ces publicités pour avoir plus de chances que vous cliquiez sur les liens et s'assurer qu'il n'y ait pas ce sentiment d'intrusion dans la vie privée, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah, en l'occurrence, c'est sûr qu'il y a eu des réactions très émotionnelles à ce genre de enfin, à cette histoire en particulier. Moi, ce que je dirais, c'est que oui, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour... Enfin, pas du tout. On va dire 99% pas inquiet de la pratique. Par contre, je pense qu'il faudrait qu'Amazon modifie son système, et je pense qu'ils vont le faire, pour ne pas inclure les informations personnelles dans les données qui apparaissent aux personnes qui font ces annotations. Ça, je pense que c'est la base, et ils auraient dû le faire depuis longtemps, et c'est bien qu'on ait eu ces informations pour... Enfin, que c'est ce, je veux pas dire scandale, mais que cette controverse soit sortie pour qu'on puisse modifier le système d'Amazon. Il y a un autre problème qui se pose, et qui là se pose à tout le monde, mais et qui existe depuis longtemps, mais qui a peut-être été un petit peu levé par cet article de Bloomberg. Alors, il y a deux choses. D'une part, les conditions de travail des employés qui travaillent 9 heures par jour, qui font jusqu'à 1000 annotations par jour, c'est un petit peu les travailleurs, c'est l'usine de la tech. Bon, c'est dans des pays d'Europe de l'Est, je crois, que ça se fait. Ce n'est pas des conditions super, mais au-delà de ça, et ce n'est pas nouveau pour Amazon, on le sait, au-delà de ça, il y a la question de que se passe-t-il quand ces personnes qui écoutent les extraits entendent des choses problématiques, comme il y a des exemples qui ont été donnés, comme par exemple de la violence domestique, ou un truc qui est terrifiant, c'est un enfant qui appelle à l'aide, par exemple. Visiblement, tu disais, bon, bah, on n'est pas garanti que ça soit uniquement quand on dit le mot-clé, et c'est vrai, tu as tout à fait raison. Dans certains cas, même si c'est rare, eh ben, ça peut prendre quelque chose qui n'a pas été déclenché par le mot-clé. Et un enfant qui appelle à l'aide, qu'est-ce qu'ils font ? J'imagine que là, enfin, il y a des processus, des process qui doivent être mis en place. Peut-être alerter la police. S'ils ont les informations de la personne, eh ben, le mentionner à la police. Et puis ensuite, on voit ce qu'ils font, envoyer l'extrait, ce genre de choses. Dans le cas d'Apple, par exemple, ils ne pourraient pas. On pourrait se retrouver avec un extrait qui est entendu. Et on ne peut pas retrouver la personne. Et si c'est un extrait qui est quelque chose de vraiment problématique, bon, je ne sais pas. Ça, c'est pour moi la question qui se pose vraiment, c'est celle-là. Pas la question de Amazon vous écoute parce que...
Après, ce que j'ai compris, moi, de l'affaire, c'est que Amazon n'est pas capable de faire le match, le lien entre un extrait d'une personne, ou en tout cas les employés eux-mêmes, ceux qui écoutent, ne peuvent pas faire le lien entre l'identité de la personne et l'extrait audio attaché.
Alors, ils ont le numéro de série de l'appareil, par exemple.
Ils ont le numéro de série de l'appareil, tout à fait. Et ils pourraient avoir un processus, des conseils qui font que dans ce type de situation, vous pouvez communiquer l'extrait audio avec le device de l'appareil, ou dire que contacter la personne qui a cet appareil. Mais enfin, c'est compliqué, quoi.
C'est-à-dire qu'ils doivent faire remonter ça à un autre département au sein d'Amazon, et puis ensuite, eux vont voir ce qu'ils vont faire avec cette information, effectivement.
Mais a priori, c'est pas la démarche d'Amazon, c'est pas le positionnement d'Amazon. En tout cas, c'est ce qu'ils ont expliqué. C'est en gros, ce n'est pas le rôle d'Amazon d'intervenir dans ce genre de situation. Donc, pour
bien
l'instant,
sûr,
parce qu'il n'y a pas de process en place.
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient avoir ce type de process en place s'ils le voulaient, mais c'est hyper compliqué parce que du coup, tu t'immisces dans une affaire criminelle. Et là où nous tous, on se dirait « oui, oui, il faut le faire », il y a énormément de cas limites où peut-être que ça serait légalement compliqué de dire Amazon a écouté le truc alors qu'il n'avait pas l'autorisation d'enregistrer et que... Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est un témoin? Est-ce que légalement, je pense qu'on n'a pas vraiment de cadre. Je sais que dans le cas de certains... services en ligne, comme des jeux en ligne où il y a du chat écrit. Je sais que quand on a des personnes qui disent des choses problématiques comme des gens qui disent qu'ils vont se faire du mal ou se suicider en chat et qu'une autre personne va signaler ça à, au service client, eh bien, le service client, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire Blizzard, qui est une société pour laquelle je travaillais donc dans le cadre de World of Warcraft, le service client contacte les autorités. Mais je ne sais pas si c'est une obligation légale de le faire, je ne sais pas du tout. Évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu différent, parce que là, les gens qui en parlent en public, entre guillemets, c'est-à-dire vont en parler dans le groupe de joueurs dans lequel ils sont, ou dans les canaux de discussion publique, ce genre de choses.
Oui, mais, voilà, c'est quand même, c'est là où c'est différent, c'est-à-dire que c'est qu'une personne qui prend l'action d'avertir suite à un échange entre d'une conversation, c'est pas un appareil qui écoute chez toi.
Ouais, c'est ça, oui.
Où il n'y a pas de consentement du partage de l'information. Là, la personne sur le chat a partagé un sentiment dans une sphère semi-publique-privée, quoi.
Ouais. Et donc, oui, je sais pas. Mais pour moi, voilà, c'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que ces sociétés doivent faire quand on entend ce genre de choses, alors que c'était pas l'intention à la base d'aller chercher ce genre d'informations. Donc là, oui, là, il y a un gros problème. Sur le reste, l'entraînement du système, tant qu'on a quand même cette surveillance, on va dire, du public et de la presse qui évite qu'on fasse des choses un petit peu trop limites, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça, quoi.
Après, il y a des moyens de limiter hein, justement cet usage. Hein. Dans les settings, dans les paramètres d'Alexa, vous allez pouvoir empêcher d'utiliser les requêtes pour qualifier la publicité ou votre profil de consommateur d'Amazon. Par contre, je crois que vous ne pouvez pas empêcher Alexa d'enregistrer les extraits, mais vous pouvez empêcher Alexa d'utiliser les requêtes pour customiser votre profil client, je crois.
Oui,
donc il y a des
alors,
données
on peut
de,
le désactiver.
Privé, de vie privée. Ouais.
Mais une autre chose qui était un petit peu problématique, c'est que si on disait qu'on ne voulait pas utiliser nos informations pour améliorer le service, qui est en fait ce dont on parle ici, eh bien il se trouve qu'ils n'ont pas donné les détails, mais certaines requêtes étaient quand même envoyées. Alors c'est peut-être des cas très particuliers, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de le désactiver totalement. Donc ça aussi c'est problématique, je pense que...
Mais pour moi c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que...
la question profil publicitaire...
Exactement, tu participes à l'amélioration de service, c'est aussi pour le bénéfice de l'utilisateur, et ça ne sera pas utilisé en externe ailleurs, c'est un peu comme Apple.
Mais là,
tu vas pas utiliser les requêtes pour ton profil parce que eux, de toute façon, ne font pas leur business là-dessus.
Alors le problème avec Alexa spécifiquement, c'est que quand on activait l'option ne pas utiliser mes informations pour améliorer le service, eh ben il y avait quand même certains extraits qui étaient envoyés. Tu vois,
mais parce qu'en fait, c'est ce que je te dis, je pense que c'est pas la même chose. Pour améliorer le service, c'est à des fins d'améliorer, et je pense que ça, tu ne peux pas l'empêcher. Par contre, utiliser ces données, ces requêtes...
Non, mais c'est ce que je te dis. Excuse-moi, Marion. Il y a une option pour dire « je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour améliorer le service ».
Ah d'accord, j'avais compris l'inverse, d'accord.
Oui, c'est une option spécifique. Et malgré ça, il y a certains cas où c'est envoyé quand même. Donc, Amazon doit nettoyer un petit peu tout ça. Google, au moins, il l'utilise pour... à des fins publicitaires, mais vous pouvez là aussi désactiver ce genre de choses. Et c'est plus propre, disons, chez Google. Chez Amazon, il faut nettoyer un petit peu tout ça. Bon, parlons maintenant de Julian Assange. Là encore, petit résumé des faits. Qu'est-ce qui s'est passé avec Assange et avec Chelsea Manning ? En mars 2010, Julian Assange a aidé Chelsea Manning proposé d'aider Chelsea Manning à craquer un mot de passe pour pénétrer dans les systèmes du Pentagone. Bien sûr, on se souvient de Chelsea Manning, à l'époque Bradley Manning, qui avait fourni énormément d'informations et de documents à WikiLeaks, qui les avait ensuite publiés tels quels, avec une partie d'une vidéo qui avait été remontée pour dénoncer des dommages collatéraux, il l'avait appelé collateral murder, je crois, et qui avait fait un énorme scandale parce qu'effectivement, il y avait des militaires américains qui avaient tiré sur des civils et des journalistes, je crois que c'était des hélicoptères. Donc, c'était un vrai scandale qui avait été révélé par la collaboration entre Chelsea Manning et Julian Assange et WikiLeaks. Chelsea Manning, qui était donc une employée du Pentagone, je crois, et qui avait été lanceur d'alerte. Là où il y avait une grosse différence entre Chelsea Manning et mise à jour de l'information de Marion, tu as vérifié ce que je disais sur l'option qui permettait de ne pas utiliser nos données pour améliorer le service ?
Oui, a priori, ils disent que c'est pour ne pas utiliser ces enregistrements pour développer de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités. Donc, ce n'est pas pour améliorer la reconnaissance en tant que telle.
D'accord, donc c'est un petit peu entre les deux. Oui, bon,
c'est entre les deux, exactement.
Ouais, ouais. Bon, disons qu'il faudrait une option, quoi. Oui. Il faudrait une option pour ne pas l'utiliser tout court, effectivement.
C'est ça.
La différence entre ce qu'a fait Julian Assange avec WikiLeaks et les données que lui a donné Chelsea Manning et ce qu'a fait Snowden, parce qu'on compare souvent les deux, c'est que Snowden a donné les informations à des journalistes qui ont analysé les documents et décidé ce qu'ils allaient publier ou non. Une grosse critique qu'on fait à la démarche de Julian Assange à l'époque de ces Pentagon Papers, je ne sais plus comment ils s'appelaient, c'était qu'ils avaient tout publié sans aucun filtre et que ça contenait notamment énormément d'informations sur les employés du gouvernement américain dans différents pays et notamment des gens qui étaient en zone dangereuse, qui avaient pu être identifiés et donc ça, c'était extrêmement dangereux pour eux. Et ils n'avaient pas du tout filtré ces informations. Aujourd'hui, l'arrestation de Julian Assange est motivée par quelque chose qui est parallèle à cette histoire, c'est-à-dire que le gouvernement américain utilise le Computer Fraud and Abuse Act, je dis le gouvernement, mais c'est le département de la justice, donc le CFAA, qui dit qu'on n'a pas le droit de hacker des systèmes, en gros. Et c'est pas que Assange a hacké le système directement, mais il a proposé de l'aide à Chelsea Manning pour hacker le système du Pentagone. Il y a des extraits spécifiques de conversations entre eux où Julian Assange dit ok, donne-moi le hash qui est un chiffrement d'un mot de passe et je vais essayer de trouver le mot de passe qui correspond à ce hash. C'est très très difficile, mais c'est possible avec certaines tables d'informations qui vous donnent le mot de passe d'origine si vous avez le hash qui correspond. Il semble qu'il n'ait pas réussi, mais il a proposé, donc il a aidé Chelsea Manning à le faire. Il s'est ensuite réfugié, donc Julian Assange, dans l'ambassade américaine, dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre. Ça faisait 7 ans qu'il était dans cette ambassade. Et il faut noter qu'il était dans l'ambassade pour échapper notamment à une accusation de viol qui a été faite en Suède. L'accusation le procès a été abandonné par le département de la justice suédois, mais pas parce que finalement il pensait que l'accusation était sans fondement. Il a été abandonné parce qu'il se rendait compte que tant que Julian Assange était dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre, il ne pouvait pas poursuivre le procès. Et il semblerait qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont indiqué, c'est que, étant donné qu'il a été arrêté, qu'il est sorti de l'ambassade, ils vont reprendre le procès. Donc, c'est un procès qui est toujours en cours, cette histoire de viol. Et il faut noter que la définition du viol en Suède est un petit peu plus vaste que dans des pays comme la France. Donc, il faudrait que j'ai le détail exactement de l'accusation, mais en tout cas, c'est une accusation de viol. Donc, on en est à ce stade maintenant. L'Équateur a annulé sa défense de Julian Assange. Ils lui ont demandé de quitter l'ambassade pour tout un tas de raisons. Il semblerait qu'il était notamment... alors, les choses qu'ils disent, c'est qu'il était en train de monter une cellule de... je ne sais plus le terme qu'ils ont utilisé, mais une cellule d'espionnage au sein de l'ambassade. Ça, c'est l'aspect un petit peu sérieux. Il y a aussi des problèmes comme il disait qu'il avait une hygiène très discutable, qu'il jouait de la musique très très fort, enfin qu'il était un invité infernal, sachant que ça faisait quand même 7 ans qu'il était enfermé dans l'ambassade. Donc on peut imaginer que ça l'a un petit peu affecté. Et d'ailleurs, les images qu'on a vues de lui laissent penser qu'il est... Je ne sais pas comment définir la chose, je ne suis pas psychologue, mais il a l'air affecté, on va dire. Il a l'air un petit peu moins clean qu'il ne l'était à l'époque où il est rentré dans l'ambassade. Il faut noter aussi que la prescription de l'accusation américaine est de 8 ans. Donc la prescription de la chose est passée, ce sont des actes qui ont eu lieu en 2010, et... Pour pouvoir l'inculper, le gouvernement américain, enfin le département de la justice américaine, présente l'aspect terroriste de l'acte. Et là, on est un petit peu dans une zone un petit peu floue. Donc, ils disent que c'était un acte terroriste. Je suis pas certain que ça colle, mais bon. Une autre préoccupation, c'est le fait que l'accusation peut poser des problèmes au premier amendement de la Constitution américaine qui touche à la liberté de parole pour le journalisme. C'est-à-dire que s'il est condamné pour la chose, ça peut affecter la capacité des journalistes à publier des documents donnés par des lanceurs d'alerte. Alors, sur ce point, il y a deux points de vue. Il y a beaucoup de gens qui disent pas vraiment, parce que là, on parle spécifiquement de la question du Computer Fraud and Abuse Act, donc la question du hacking. Donc, il est vraiment accusé pour hacking et pas pour la publication des documents. Et dans l'ensemble, j'ai l'impression que, de tout ce que j'ai lu, l'accusation... et pas hyper solide, l'accusation que fait le gouvernement américain, pas solide dans le sens où il n'est pas certain que le juge condamne Julian Assange parce qu'il y a cette histoire de prescription, cette histoire de préoccupation par rapport au premier amendement, etc. etc. Et puis le fait que, est-ce que le fait de dire « je vais t'aider » mais on ne sait pas s'il a réussi, est-ce que ça le qualifie ? Et dans tous les cas, la peine maximum de cette accusation est de 5 ans de prison. Donc, ce n'est pas qu'il partirait en prison pour le reste de sa vie. Chelsea Manning a été libérée par le président Obama à la fin de son mandat, mais elle est retournée en prison il y a quelques semaines, quelques mois, parce que justement, elle refusait de témoigner contre Julian Assange. Donc, elle est de retour en prison suite à toute cette affaire. Alors, c'est vraiment compliqué. Tu parlais d'émotions tout à l'heure, Marion, par rapport à Alexa. Là, je crois que les émotions sont également assez fortes parce que on a à voir, on a des concepts, des idées de gouvernement liberticide, de lanceurs d'alerte importants pour des questions importantes et des agissements de gouvernement qui étaient condamnables. On a une attitude d'un leader de Wikileaks qui est quand même assez, au-delà de l'activisme, il est quand même assez extrême dans ses positions. C'est difficile de démêler tout ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses, si tu as une opinion d'ailleurs, il n'est pas certain que tout le monde ait une opinion là-dessus.
C'est vraiment un sujet compliqué mais assez passionnant pour voir tout ce qui se passe, tous les déroulements, toutes les implications politiques aussi que ça peut avoir dans le monde. Là où je suis assez d'accord avec toi, c'est quand même que la personnalité de Julian Assange est quand même assez controversée. Enfin, le personnage est assez controversé en lui-même. Là où tu as bien fait de mettre en perspective les comportements qui lui étaient reprochés, c'est quand même, il faut imaginer quelqu'un... il n'est pas emprisonné, mais il est quand même dans un bâtiment depuis 7 ans, un unique bâtiment depuis 7 ans. Donc évidemment que ça a un impact sur sa santé mentale et sur son comportement. Enfin, ça serait étrange de penser le contraire. Après, je ne suis pas en train de l'excuser, mais c'est important d'avoir cette perspective-là aussi. Ce qui est étrange, c'est aussi le changement de positionnement du président de l'Équateur, Lénine Moreno, qui faisait partie partie aussi hein, du gouvernement du précédent président qui, lui, avait accordé la nationalité à Julian Assange pour ensuite le nouveau président, pour ensuite resserrer et ajouter des nouvelles contraintes à son statut. Donc, c'est un petit peu compliqué. On sent qu'il y a une pression extérieure. Après, je ne suis pas experte en politique, donc je ne peux pas savoir les implications entre les États-Unis et le président de l'Équateur, ce qui peut se passer, mais je me doute qu'il doit y avoir des pressions.
Je pense qu'on peut dire sans se tromper que le gouvernement américain demande au gouvernement de l'Équateur de libérer, enfin de leur livrer Julian Assange, ça c'est certain, et je suis sûr qu'il le demande avec force, on va dire.
Oui. Tout à fait. Et on le sent d'ailleurs dans le témoignage du président, on sent aussi qu'il essaye de trouver une justification hein, à sa décision. Mmh.
Oui, l'histoire de Assange qui nettoie pas le caca du chat, par exemple, c'est un petit peu bon. Mais il faut noter aussi que le gouvernement précédent américain de Barack Obama avait choisi de ne pas pousser le procès. Alors peut-être que les conditions ont changé, hein, mais avait choisi de ne pas pousser le procès parce que justement ils avaient des craintes sur les conséquences que ça aurait pour la liberté de parole, c'est-à-dire le journalisme. Donc ils s'étaient dit bon, on n'est pas trop sûr, on va pas y toucher.
C'est justement là que c'est intéressant parce que la crainte par rapport à la liberté journalistique et cette démarche journalistique, on connaît la position de l'administration Trump envers les journalistes aujourd'hui.
Oui, je crois qu'il y a quand même une chose qui indique le contraire aussi, c'est que ils vont vraiment pousser l'aspect hacking. Ça, c'est quelque chose qui est... Alors, c'est hyper ténu comme justification, mais il ne parle pas du tout de publication. Il parle vraiment de hacking, de système, et notamment du système du Pentagone, ce qui est et qui a mené. Et c'est là, je pense, qu'il faut mesurer également les propos, parce que j'ai lu beaucoup de gens qui disaient « Oh mon Dieu, c'est une attaque contre les lanceurs d'alerte ». Alors oui, dans une certaine mesure, mais comment dire ? Il y a une attitude jusqu'au boutiste de Wikileaks et de Assange qui, elle, ne date pas de ces dernières années quand il était enfermé dans l'ambassade de l'Équateur, mais qui est vraiment jusqu'au boutiste. C'est ce que je disais par rapport à la publication des documents. Il y a eu dans le lot une indiscrimination et, comment dire, le fait de soutenir Julian Assange sans réserve me paraît un petit peu suspect. C'est le mot que j'emploierais. Il est évident qu'il a contribué à quelque chose d'important dans les révélations de ces dernières années. Le système de Wikileaks a poussé de nombreux journaux à implémenter des systèmes de livraison d'informations sécurisées, etc., etc. Mais il est aussi indéniable que la manière dont il l'a fait était quand même pas très responsable. Et lui est... point au ciel, disant que, enfin, ne remettant rien en cause de ce qu'il a fait, n'admettant aucune erreur. Enfin, je veux dire, c'est un personnage. Tu le disais, c'est un personnage controversé. J'ai du mal à le défendre sans nuance. Autant je trouve que Snowden a fait les choses de manière, je crois, quasiment irréprochable. Autant Julian, peut-être qu'il faudra le défendre, Julian Assange, et dire non, non, mais les conséquences de ce procès pourraient être graves pour la liberté de parole. Donc mine de rien, bah je l'aime pas, mais il faut quand même le défendre. Mais je le défends un petit peu, comment dire, j'irai pas jusqu'à dire en me pinçant le nez, mais moi, c'est le personnage et les méthodes me paraissent quand même. Je ne sais pas quel terme utiliser, me paraissent difficiles à défendre, voilà, sans nuance, quoi.
Et puis surtout, avec cette démarche de transparence à tout prix, là où ça peut devenir gênant, et ça, c'est devenu gênant, c'est qu'en fait, ça peut être utilisé pour de la manipulation et de l'instrumentalisation de Wikileaks, pour blesser des États spécifiquement.
En 2016, exactement.
Et donc c'est là où on n'est pas
Je précise pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qui s'était passé, il y a eu des documents qui avaient été volés au Parti démocrate américain, donc le parti de
Hillary Clinton.
Hillary Clinton, merci, et qui avait été très dommageable et qui avait été publié sur WikiLeaks, là encore, sans discrimination, sans aucune, sans aucun filtre. Et c'était, d'après toute vraisemblance, une action du gouvernement russe. Donc,
ouais. Et ils sont... voilà, il y a certains pays comme ça qui sont assez redoutables dans la stratégie où ils vont utiliser des démarches a priori louables de transparence des organismes opaques de certains États, voilà, lutter contre cette opacité des gouvernements. Mais en fait, ils vont utiliser cette démarche louable pour manipuler justement et abreuver ces plateformes de documents qui vont porter préjudice spécifiquement à des camps. Et donc, ils vont jouer le jeu de certains États. Et c'est là où ça devient dangereux, moi, je trouve. Ouais. Et c'est là où tu parlais justement de traitement journalistique et la différence avec Edward Snowden. Et je pense qu'elle est, très importante et fondamentale. C'est que justement la démarche journalistique va pouvoir traiter l'information et s'assurer que l'information divulguée ne va pas forcément mettre certaines vies en danger comme ce qui a pu se passer précédemment et s'assurer que la divulgation de ces informations se fait dans des conditions optimales. C'est pas évident à présenter comme ça, mais je pense que le traitement journalistique ici est très important.
Ouais, et du coup, j'ai l'impression que ça nous fait pas tellement avancer pour la question de Assange, quoi. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait été arrêté et lâché par l'Équateur ? Est-ce que c'est tout de même dommageable pour la liberté de parole ? Est-ce que ça va avoir, comme on dit en anglais, un chilling effect, un effet refroidissant sur ce type d'action à l'avenir ? Est-ce que les lanceurs d'alerte se diront, ou les gens qui voudraient publier ce genre de choses se diront, oula, attends, t'as vu ce qu'ils ont fait à Assange ? Ils ont trouvé une excuse avec cette histoire de hacking qui était finalement assez accessoire. Moi, je ne veux pas me retrouver en prison, donc non merci. C'est des questions qui sont tout aussi légitimes. Donc, je ne sais pas. Et en même temps, comme je le disais, ce qu'a fait Assange en publiant sans filtre, enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent non, aucun secret, il faut que tout soit publié, tout soit su, les secrets sont inutiles. Mais il me paraît difficile de défendre la vie privée, qui est généralement l'une des marottes des gens qui vont défendre Julian Assange, et en même temps dire rien ne peut être privé. Il peut y avoir aucun secret.
Pour moi, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose, mais est-ce que les États n'ont pas le droit d'avoir des secrets ? Tu vois, si on dit ça, ok, mais ça change, ça a beaucoup d'autres implications.
Je pense que l'équilibre entre la volonté des États d'avoir une certaine opacité la quête journalistique de divulguer les méfaits ou les déformations du système par l'État est un bon équilibre. C'est-à-dire que les deux s'équilibrent. Là, moi, ce qui me fait très peur avec ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, ils veulent le poursuivre pour cette accusation de hacking, enfin, ça ressemble plus à un prétexte pour le poursuivre à tout prix qu'autre chose. Donc, évidemment, je pense que ça va impacter malheureusement la liberté journalistique, quoi.
Bon, moi, je crois que je sais pas, j'ai déjà tout dit, je pense qu'on va laisser vous faire vos propres conclusions. La seule chose que je dirais en conclusion, comme je le dis souvent, c'est que tout ça n'est ni tout blanc ni tout noir, et si vous entendez des gens qui vont vous dire que Assange est un martyr qui n'a rien fait de mal et qu'il est une victime de la... du despotisme des États-Unis, je crois qu'il faut y mettre un petit grain de sel. Et de la même manière, si vous entendez des gens qui vont vous dire, j'imagine que ça sera plus le cas aux États-Unis, que c'est un traître qui a entraîné, et que Chelsea Manning aussi est une traîtresse, et qu'ils ont mis en danger la sécurité nationale et qu'ils n'auraient jamais dû faire ce qu'ils ont fait et qu'il faut les mettre en prison jusqu'à la fin de leur vie, là aussi, je crois qu'il faut mettre un gros grain de sel. Mais le problème, c'est que dire Oui, il faut un petit peu de mesure, c'est facile. Et là, j'avoue que pour une fois, je me mets moi-même au milieu de la controverse. Mais c'est facile de dire, ouais, bah, c'est ni tout blanc ni tout noir. Mais au final, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'il aurait fallu laisser Assange entièrement en liberté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le mettre en prison? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose de trouver cette astuce avec l'histoire du hacking? Peut-être que c'est une volonté aussi du département de la justice. Ils disent, ben, on ne va pas attaquer l'aspect journalistique, mais on veut quand même marquer le coup. Donc, on fait une histoire de hacking, mais sans toucher à la question de la publication des documents. C'est peut-être une demi-mesure qui est souhaitable, mais je ne sais pas. Donc, au final, ben, je ne sais pas. j'ai pas vraiment la réponse. Je crois que peut-être qu'il faut faire confiance à la justice. Et peut-être, il est tout à fait possible que l'accusation ne tienne pas. Le juge est quand même a priori indépendant. Peut-être qu'il va dire, bah non, désolé, ça tient pas. Donc, je sais pas. Ouais, Marion. En conclusion, t'as un avis ? Est-ce qu'il faut mettre Assange en prison ou pas ?
C'est franchement compliqué. Je pense que de toute façon, il y a deux sujets différents. C'est la validité de l'accusation et la manière dont il a été traité et semi-emprisonné, puis ensuite pris de force dans l'ambassade. J'ai trouvé que la démarche de l'ambassade de l'Équateur n'a pas été très franche et très clean.
Ah oui,
très
mais ils font quoi? Ils peuvent pas le garder dans l'ambassade jusqu'à la fin des temps. Ils pourraient l'envoyer en Équateur, mais enfin, même là, c'est compliqué, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le garder jusqu'à ce qu'il ait 70 ans ou jusqu'à ce qu'il meure dans l'ambassade?
Non, mais les propos du président ne tiennent pas, pourquoi le faire sortir. Et ça, c'est, en fait, ça fait vraiment céder à la pression des États-Unis et on trouve une raison pour le faire sortir et puis on s'en débarrasse comme ça, quoi.
Ouais. Bon, ce que je sais en tout cas, c'est que si Assange, Snowden se retrouvait dans la même situation, mon avis sur la chose serait très très différent et beaucoup plus tranché. Pour le cas justement avec Snowden, on a quelqu'un qui a vraiment une intention hyper noble et une démarche qui est très prudente et on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Donc il y a quand même cette différence que je fais, quoi.
Mais tu vois, c'est deux choses à décorréler pour moi. La manière dont ça s'est déroulé ne doit pas être liée au personnage en lui-même. C'est deux choses encore différentes. Ouais. C'est pas parce que je suis pas en train de soutenir Julian Assange quand je dis la manière dont ça s'est déroulé ne s'est pas faite correctement.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc, c'est une manière de dire que tu ne sais pas non plus, en fait. Je crois qu'on est tous...
Je pense que l'avis est très nuancé, comme ouais. Pour beaucoup de choses.
Bon, bah si vous avez réussi à vous faire un avis ou si votre avis a été un petit peu ajusté suite à notre conversation et surtout notre explication, j'espère qu'on n'a pas oublié de détails et c'est ça qui est important parce que les détails sont souvent importants dans ce genre d'histoire et c'est souvent les détails qui sont oubliés par ceux qui vont défendre un camp ou l'autre mordicus. Et bah si ça vous a permis de vous faire un petit peu de votre avis, vous pouvez venir nous le dire sur sur frenchspin.com, sur l'article de l'émission. Et comme je le disais tout à l'heure, bah si ça vous a aidé à vous faire un avis sur Alexa et sur Assange, cette émission, et bah, allez faire un tour sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Vous choisissez la somme que vous donnez par épisode. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et c'est le moyen de soutenir l'émission. Et donc, ceux qui le font sont les héros du Rendez-vous Tech. Je vous remercie infiniment de le faire. Et je vais lire un commentaire iTunes, tiens, d'une personne qui est... Alors, je ne pense pas que ça soit un Chinois ou un Japonais. Je crois que c'est Shinki qui a écrit en kanji, du coup. Donc, c'est le nouveau démon, je crois. Mais kanji, je les ai un petit peu oubliés. Mais il nous dit « Très bonne émission, mais Patrick, par pitié, en français, on dit « même », un « même ». Le mot existe, autant l'utiliser. Surtout que tu l'utilises dans quasiment chaque épisode. C'est un régal d'écouter ton condensé d'actualité chaque semaine. Une émission incontournable. Merci à toi, on va dire Shinki. Je ne savais pas que « même » était un vrai mot français. Je ne savais pas qu'il avait été intronisé par je perds mes mots.
L'Académie
française. Donc un mème, ben voilà, maintenant je saurai, merci beaucoup Shinki. Donc la prochaine fois que je parlerai de mèmes, eh ben je dirai des mèmes. Très bien. Et merci Shinki d'avoir laissé un commentaire sur iTunes. J'apprécie énormément. Continuons donc avec des petites news et rumeurs un petit peu plus rapides, et notamment cet article formidable de Taylor Lorenz sur The Atlantic, qui, elle fait toujours des articles vraiment d'immense qualité pour vous aider, vous et moi, à comprendre les jeunes et la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux. En l'occurrence, elle a fait un article sur la manière dont les classes d'universités américaines utilisent Instagram pour créer des groupes de nouveaux étudiants qui arrivent la même année dans l'université. Ils créent en fait des nouveaux comptes avec, par exemple, je sais pas, MIT 2024, genre l'année de promotion du MIT 2024, et ils suivent des gens qui disent qu'ils arrivent dans l'université au même moment, et ils se rencontrent, ils discutent par l'intermédiaire d'un compte Instagram. De la même manière, en fait, que on utilisait Facebook à l'époque, et peut-être certains d'entre nous utilisent encore Facebook, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant sur la manière dont les gens et les jeunes détournent Instagram pour créer des groupes, en fait, alors qu'il n'y a que des comptes, et se trouvent des amis, des roommates, discutent, etc. C'est vraiment, Instagram est devenu le focus de la jeunesse, j'ai l'impression.
Oui, et c'est marrant parce qu'on retrouve l'usage d'origine de Facebook dans le détournement sur Instagram, où en effet, on retrouve ces étudiants qui vont utiliser Instagram pour se créer des groupes, se rencontrer, faire connaissance et trouver ses futurs colocataires.
T'as raison, c'est à ça que servait Facebook à l'origine, quand il a été créé dans les universités.
Donc on se demande si Facebook n'est pas en train de se frotter les mains, justement. ils quittent Facebook ou ils ne sont pas sur Facebook, mais au moins on les a gardés quelque part.
Ah bah,
parce
ça,
que
c'est sûr,
Instagram, ouais, en effet, ressemble vraiment à cette stratégie-là.
Oui, bah oui. Et pour ceux qui l'ignoreraient encore, Instagram appartient à Facebook. Donc, on a des nouvelles du côté d'Apple. Il semblerait que la prochaine version de macOS quitte enfin iTunes et explose iTunes en différentes applications spécifiques. Une application pour la musique, une application pour les podcasts, une application pour la télévision, ça on en a déjà entendu parler. Et l'application Books, donc l'application pour les livres, serait redesigné, et iTunes existerait encore pour la synchronisation des appareils iOS, mais ça serait la dernière utilisation. Peut-être qu'il y aura une nouvelle application pour ça aussi à terme. Donc bon, c'est la fin d'une époque, et peut-être la fin d'une époque qui a duré un petit peu trop longtemps, l'époque iTunes, mais oui, c'est intéressant de voir. Pour moi, ce qui est intéressant, ce qui me frappe vraiment là-dedans, c'est que même si Apple a beaucoup changé, Steve Jobs avait positionné les Mac et l'écosystème Apple comme l'informatisation des outils numériques qui faisaient notre quotidien. On se souvient qu'il y avait, je crois que c'était iPhoto à l'époque, qui servait à classer nos photos à un moment où on en prenait de plus en plus avec nos appareils photo numériques. iTunes servait à gérer notre musique numérique. Et c'était vraiment une sorte de tout-en-un pour gérer notre vie numérique. Et en fait, ça continue un petit peu avec... vous avez une app pour votre musique, une app pour vos podcasts, une app pour votre télé, une app pour vos livres. Et ça réunit un petit peu tout ça. Pour moi, c'est dans la droite ligne de ce qu'a toujours fait Apple avec ses outils informatiques, quoi. On a des informations sur les millions que dépense Apple. Alors, ils ont payé beaucoup, beaucoup pour acheter Texture. Vous savez, c'est l'app qui a donné le service News Plus qui a été annoncé il y a 2 semaines. Donc, ils ont payé en tout presque 500 millions de dollars qui sera payé sur 3 ans aux différents éditeurs et propriétaires de Texture qui étaient des éditeurs de presse. Et ils seraient en train, selon certaines sources, de dépenser des centaines de millions de dollars pour avoir des jeux, pour financer et pour avoir l'exclusivité de jeux sur leur service Apple Arcade. Donc là aussi, on a une intention d'Apple. Alors, 500 millions pour Apple, c'est pas énorme, mais vraiment l'envie de mettre beaucoup d'argent pour financer ces services. Et là où ça m'intéresse, moi, particulièrement, c'est que j'ai toujours vu ce service d'Apple, enfin, depuis qu'ils l'ont annoncé, Apple Arcade, comme un moyen de financer des jeux payants sur l'App Store où ils ont du mal à se financer eux-mêmes. Donc, s'ils mettent effectivement, s'ils injectent 500 millions de dollars dans l'écosystème des jeux payants sur l'App Store, c'est quand même pas rien. Ça fait beaucoup d'argent qui est envoyé aux développeurs. Et bien sûr, il y aura ensuite de l'argent qui va leur être envoyé par les abonnements, on l'imagine. Donc, c'est un bon moyen de financer des jeux de qualité, des jeux payants qui ont du mal à se faire leur place au soleil sur l'App Store. Et enfin, pour les questions d'App Store, l'autorité de la concurrence néerlandaise a ouvert une enquête sur les pratiques d'Apple. Alors, on en parle depuis un moment parce qu'Apple met en avant ses propres services sur l'App Store depuis quelques temps et qui rentrent en concurrence. Le plus connu est évidemment Spotify, qui est en concurrence avec Apple Music. Et donc, ça y est, les autorités de concurrence de différents pays, en l'occurrence néerlandaise, est en train de jeter un coup d'œil à ces pratiques-là. Peut-être que ça donnera quelque chose à terme, mais on en parle depuis un moment et ça se concrétise. Quoi d'autre ? Du côté d'Amazon, on a des rumeurs sur un service de musique gratuit financé par la pub. Alors, il y en a d'autres, hein, on parlait Spotify, mais Amazon pourrait se lancer dans la danse également. Si vous aimez la pub, eh ben, vous avez de quoi faire.
Non, mais c'est super malin de la part d'Amazon.
Ouais.
Avec les devices Echo qui sont dans toutes les maisons, enlever la barrière de souscrire à un abonnement pour écouter la musique, mais tout en générant du revenu, c'est assez malin de conquérir le marché via ce nouveau service supporté par la pub.
Je crois qu'ils offraient un abonnement à leur service de musique existant, mais qui était limité dans le temps et qui avait pas tout le catalogue.
Alors,
non plus.
T'as Prime, t'as ceux
ah,
qui
c'est
ont
peut-être avec Prime, effectivement,
Prime,
oui,
où tu as accès à un catalogue restreint de titres, comme tu as accès à Amazon Video et à un catalogue restreint d'e-book aussi. Et puis après, t'as l'abonnement dédié Music Unlimited pour $9,99 par mois, je crois à peu près, où là, t'as accès au plus grand catalogue, etc. Mais t'avais pas de formule gratuite supportée par la pub comme Spotify ou Deezer.
Ah, d'accord, effectivement. Intéressant. Donc oui, c'est une offre à mettre en parallèle des assistants, enfin des enceintes connectées, tout à fait raison, ouais.
Et du coup, ça peut leur faire une source de revenus assez impressionnante. Quand tu vois, c'était 115 millions d'utilisateurs pour la formule gratuite pour Spotify et 110 millions, je crois, ou 100 millions pour la formule payante de Spotify.
Et vu le succès des enceintes Alexa, ça peut atteindre ce genre de chiffre, oui.
Tout à fait.
En même temps, j'imagine que de nombreux utilisateurs d'Alexa sont déjà abonnés à Amazon Prime. C'est devenu Prime maintenant, même en France, je crois.
Donc, oui, je crois aussi. Ouais.
Uber a enfin annoncé son entrée en bourse. On a eu quelques informations intéressantes. Ils ont 91 millions d'utilisateurs mensuels chaque mois, donc mensuels, c'est ce que ça veut dire, si on inclut Uber Eats, etc. 91 millions, et ça c'est déjà bon, intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est que les 91 millions qui étaient à la fin de 2018 étaient en croissance de 33% d'une année sur l'autre. C'est fou! Ça m'a frappé parce que je pensais qu'Uber était quand même assez connu, assez utilisé et qu'entre 2017 et 2018, ils aient eu une augmentation du nombre d'utilisateurs mensuels, donc réguliers, de 33%. Ça m'a paru quand même assez impressionnant. Ceci dit, s'ils ont un chiffre d'affaires de presque d'un peu plus de 11 milliards de dollars, qui lui aussi est en progression, bon, bah, c'est logique, de 42% d'une année sur l'autre, et ben, ils perdent encore quand même 2 milliards de dollars sur l'année 2018. Donc, on n'est pas encore à une société qui fait de l'argent, même pour Uber. Est-ce que tu es passionné par Disney+ ? Est-ce que tu l'attends comme le Messi, enfin, le service d'abonnement vidéo de Disney?
Non, absolument pas.
Pas du tout. Ok, bon, donc...
Non, mais par contre, c'est très intéressant de voir justement la bataille que vont se livrer les différents fournisseurs, la Netflix, Apple, Disney+, etc. C'est assez intéressant à regarder.
Bah, je crois qu'on entre effectivement dans l'ère où la télévision est pas complètement laissée derrière, évidemment, mais elle est dans le rétro. Et même si elle continue à avancer, bah, je crois qu'on est, en tout cas pour des gens comme nous, c'est plus du tout la préoccupation principale. Disney+ a donné des détails, enfin Disney a donné des détails sur son service de streaming Disney+, et ils sont hyper intéressants et agressifs. Le prix. Et alors, on parle en dollars, hein, on imagine que ça sera plus ou moins équivalent en euros, parce que le service sera disponible dans le monde, dans les marchés principaux, mais donc on imagine que ça veut dire l'Europe, dans les 2 ans. Donc, il est lancé le 12 novembre aux États-Unis, mais il arrivera dans les autres pays, et notamment, on imagine en Europe, d'ici 2 ans. Et le prix de l'abonnement mensuel est de 7 dollars ou 70 dollars par an. Donc, un tarif bien inférieur à celui de Netflix. Alors, Netflix a monté ses prix une fois qu'ils avaient capturé le marché. Donc, il est tout à fait possible que Netflix le fasse à terme aussi. Mais pour le moment, on est à 7 dollars par mois ou 70 dollars par an, ce qui est un prix
Et
très raisonnable.
qui supporte la 4K.
C'est ça, c'est-à-dire que pour le Netflix, il y a des abonnements moins chers, mais qui n'ont pas les hautes définitions et pas la 4K. Dans le cas de Disney+, on a la 4K, le HDR. Tout le contenu peut être téléchargé et regardé hors ligne. Il y aura des applications sur toutes les box, les consoles, a priori l'Apple TV, Roku, etc., les box Android également. Il y aura également énormément de contenu supplémentaire, de contenu produit par Disney sur des licences comme les licences Marvel, les licences Star Wars, avec des séries développées spécifiquement pour le service. Il y aura tous les films Disney, y compris vous savez, Disney, ils ont un coffre dans lequel ils ont traditionnellement l'habitude de garder tous leurs films et de ne les sortir que tous les 10 ans, par exemple. Alors, ils sortent des DVD Disney de certains films tous les 10 ans. Ils vont vous dire, ah, vite, achetez-les, on ne va pas les rééditer, ils ne seront pas disponibles pendant très longtemps, donc achetez-les maintenant avant qu'ils ne disparaissent. Et bien là, ils abandonnent cette pratique, et ils vont avoir tous leurs films Disney, y compris les classiques, disponibles, donc tous les films Star Wars, tous les films Marvel, tous les films Pixar, et autant que possible en exclusivité, donc uniquement sur ce service. Alors bien sûr, en France, on aura la question de la chronologie des médias qui fera que les films n'arriveront qu'un peu après la sortie aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais n'empêche qu'ils seront disponibles exclusivement sur le service. Moi, je crois qu'ils vont faire un carton. Je pense que c'est un service qui sera, si on aime un petit peu n'importe laquelle de leurs propriétés, il sera difficile de ne pas s'abonner, quoi.
Toi, tu es impatient là. Je sens justement comment tu traites l'information. Tu attends là.
Ben moi, je suis un grand fan de Marvel, donc c'est vrai que j'ai très hâte de voir les séries qui vont nous sortir. Il y a des séries sur des personnages secondaires qu'on a vus dans les films qui seront, j'espère, traitées avec soin. Mais il y a des fans de Star Wars qui vont vouloir de toute façon voir la série The Mandalorian quand elle sortira. Enfin, je crois que... Non, toi, tu t'en fous de tout ça.
Non, non, mais en fait, il y a déjà tellement de services. Là, tu vois, j'ai déjà Netflix, Amazon Prime. Je ne me vois pas encore avoir un troisième service, en fait. Ça, voilà, donc c'est tout. Après, je ne
D'accord.
pense pas ouvrir l'app, en fait. C'est juste ça.
Oui, ben moi je suis aussi abonné à HBO parce qu'en Finlande il y a HBO Nordique. Donc là, après la fin de l'enregistrement, je vais me faire un déjeuner et je vais regarder la dernière le dernier épisode de. Enfin, le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones, etc. Donc
Non,
c'est vrai
ça
que.
c'est pas sympa par contre, Patrick.
Bah écoute, vous l'avez sur OCS, vous pouvez la regarder en France aussi. Donc, vous faites comme vous voulez, moi, mais bon.
Incroyable.
mais oui, moi, je pense que je m'abonnerai à ce truc, surtout à ce prix-là. Je crois que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de raisons de s'abonner qu'ils vont toucher une large partie de la population. Les fans de Star Wars vont s'abonner. Les fans de Marvel vont s'abonner. Les fans de Pixar vont s'abonner. Et dans les fans de Pixar, on inclut peut-être les gens qui ont des enfants. Je pense que si on a des enfants, il est difficile de justifier le fait de ne pas s'abonner parce que c'est un service tellement plein de contenu pour distraire les enfants que du coup, ça, c'est presque une économie de s'abonner et de ne pas avoir à payer d'autres trucs ailleurs. Quoi.
Donc, Disney est très très fort sur ce segment, donc c'est vrai que le segment famille, ils ont vraiment une grosse opportunité là-dessus. Là, ils risquent de faire très très mal à Netflix.
Sur cet aspect-là, je pense que oui, et Netflix est en train d'investir sur des séries animées, notamment pour enfants. Je ne sais pas si tu connais The Dragon Prince, qui est une très très bonne série, mais il y en a d'autres.
Non, je ne connais pas.
Écoute, je te la recommande. C'est par une partie des créateurs de Avatar et Korra, Avatar The Last Airbender, que je recommande également, Le Dernier Maître de l'Air, et Korra, qui est la suite. Et, enfin bref, bon, je vous ferai un petit positron sur tous ces trucs-là à un moment. Donc voilà, Disney arrive également. Parlons un petit peu en conclusion de services publics et de trucs de gouvernement. La loi fake news a un petit peu plus de précision. Vous savez, cette loi fake news, c'est celle qui a été votée en fin 2018 qui impose aux réseaux sociaux de donner les informations sur les campagnes publicitaires politiques, entre guillemets. Alors, comment ça fonctionne ? Ça touche les plateformes qui ont 5 millions d'utilisateurs uniques par mois ou plus. Ça s'applique pendant les 3 mois qui précèdent une élection. Et ça s'applique aux campagnes publicitaires qui couvrent un débat d'intérêt général. Je mets les choses entre guillemets, alors c'est pas bien défini, mais on imagine bien que c'est pour ne pas appliquer aux vendeurs de lessive et pour s'appliquer aux questions politiques. Et l'imposition, c'est que ça doit faire figurer les informations sur l'entité qui paye la campagne publicitaire à côté du contenu publicitaire en question. Donc ça veut dire que si vous voyez une publicité qui va vous dire est-ce que je sais moi, les GAFA vous fournissent, enfin, les GAFA créent de l'emploi chaque jour en France, eh ben, vous allez savoir qui paye cette publicité et savoir si c'est peut-être un petit peu orienté. De la même manière, si de l'autre côté, on va vous dire l'Europe et la plague, ah, je ne trouve plus mes mots, et un malheur pour la France, eh ben, vous allez savoir d'où ça vient également. Je prends des exemples qui sont un petit peu peut-être pas hyper scandaleux ou pas hyper controversés, mais on sait que dans toutes les élections récentes dans différents pays, il y a eu des informations beaucoup plus difficiles à traquer. Là, au moins, on saura d'où viennent ces informations. On a vu que certaines campagnes publicitaires étaient financées par des États tiers. On revient à la question de la Russie et des organismes qui étaient liés à ces États. Et on n'avait pas, contrairement à d'autres médias, de moyens de savoir d'où ça venait. Maintenant, ça sera le cas. Moi, ça me paraît quand même une bonne chose. J'ai du mal à y trouver un aspect négatif. Peut-être que toi, tu pourras, Marion ?
Non, écoute, je pense que c'est intéressant surtout de prendre des précautions aussi avant une élection, ce genre de choses, et d'avoir plus de transparence.
C'est ça, c'est une question de transparence, quoi.
Ouais. Exactement, on parlait de transparence il y a quelques minutes, bah là, on revient sur le sujet. S'assurer d'avoir la transparence nécessaire, spécifiquement en plus avant une élection, où là, on va mettre l'accent, je trouve que c'est important et potentiellement, ça aidera à réguler et éviter certains débordements ou manipulations qu'on a pu voir pour les dernières élections.
Il y a une députée de La République En Marche qui a proposé d'avoir une application du gouvernement installée sur tous les téléphones mis en vente en France. Alors, c'est une petite idée comme ça lancée en l'air, hein. C'est pas du tout quelque chose qui est en train de donner lieu à une loi. Mais je me demande si c'est pas une bonne idée. Je sais qu'on avait déjà parlé de servicespublic.fr avec toi, Marion, il y a quelques mois de ça, et que tu avais trouvé le site assez mauvais. Je crois que c'était celui-là qu'on avait parlé. Là, en fait, ça serait une app qui mettrait devant tous les citoyens qui utilisent un téléphone portable, donc tous les citoyens, un moyen de communiquer, enfin d'avoir des informations sur l'État. Là encore, avec ma naïveté légendaire, je me dis, bah, c'est pas forcément une mauvaise idée. Généralement, j'aime pas quand on impose des choses aux constructeurs, des choses de ce type-là. Mais là, je me pose la question. Je me dis, peut-être, pourquoi pas. Mais...
Question de prendre un rebrousse-poil les personnes pour leur imposer des informations sur le gouvernement. Alors là, je trouve ça génial comme idée. Je pense que pour braquer les gens un peu plus,
il ne
faut pas
ouais.
hésiter. Ouais, il faut faire ça. Il faut préinstaller une application du gouvernement qui va t'envoyer des notifications alors que tu n'as jamais accepté.
Mais,
non, je comprends. Là, en fait, la question, c'est comment faire en sorte que les gens s'intéressent à l'actualité du pays, les enjeux politiques, sociaux, etc.
Je t'interromps, c'est même pas qu'une question d'actualité, parce que Service Public, qui est a priori le site qui serait concerné, c'est des questions d'informations pratiques, de démarches, c'est des choses importantes. Il y a des démarches administratives qui sont mises en place, des informations sur la justice, sur les déplacements à l'étranger, sur plein de choses, quoi. Non ?
Mais ça, tu y accèdes déjà sur Internet. S'il y a un problème d'accès, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas le réflexe d'aller sur Service Public pour aller chercher ces informations, ils n'auront pas le réflexe d'ouvrir l'application pour aller chercher ces informations. Donc, le problème, il n'est pas là, en fait.
Ouais. J'aurais tendance instinctivement à être d'accord avec toi, mais en même temps, quand je me rends compte à quel point le fait d'effacer les frictions possibles entre une intention et une action est importante pour des sociétés comme Amazon, pour des sociétés comme Netflix, pour toutes les sociétés de la tech qui passent une énorme partie de leur temps, et tu le sais puisque tu es spécialiste de l'interface utilisateur, effacer les frictions, un clic de plus, c'est une occasion de plus de ne pas faire quelque chose. Plus tu lisses la chose, mieux ça marche. Et bien là, en l'occurrence...
Le souci, c'est que ça ne vient pas exactement de ça. C'est-à-dire que si tu mets... La friction, elle existera toujours. Alors oui, tu auras l'application préinstallée, mais encore, il faudra savoir qu'elle est là et que tu n'aies pas oublié que tu l'aies mis dans un dossier caché comme ce qu'on faisait avec les applications Apple, hein, quand même. Mais après, tu vas te retrouver sur un espèce d'annuaire d'informations. Pour trouver l'information que tu veux déjà, il faudra voir comment l'application est faite, parce que ce n'est pas du tout sûr que ce soit facile de trouver. Mais bon, là voilà, je joue le jeu de l'argument.
Oui, tu te fais un petit peu l'avocate du diable comme j'aime le faire, alors que moi j'étais content et positif. Bon, je comprends, effectivement. Et puis bon, c'est vrai qu'il est à Service Public est un site qui est facilement accessible, évidemment. Peut-être que la solution est d'encourager les gens à aller sur service-republique.fr, qui est vraiment un site que moi, je trouve de bonne qualité. C'est peut-être pas de celui-là qu'on avait parlé à l'époque. Là, c'est un site qui réunit plein d'informations et démarches sur le service public et je trouve qu'il est quand même pas mal foutu.
Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de récupérer des données sur quels sont les services ou les démarches qui ne sont pas bien comprises par les gens ou pas trouvées par les personnes aujourd'hui, quels sont les moyens qu'elles utilisent, comment elles font, et essayer de résoudre le problème à cet endroit-là, en fait.
Ouais, mais ça, c'est trop compliqué. Enfin, Marion, ça demande des études, des trucs. C'est quand même beaucoup plus simple de mettre une app sur tous les téléphones de France.
Comme ça, ça ne marchera pas et on dépensera de l'argent pour rien.
Bon, bah voilà, écoutez, ça va être le dernier sujet dont on vous parle aujourd'hui. Merci mille fois à toi d'avoir pris le temps de faire l'émission avec moi, Marion. Si les auditeurs veulent retrouver un petit peu plus de ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent aller? Notamment, je pense aux photos, mais il y a peut-être d'autres choses.
Vous pouvez me suivre sur Instagram ou Twitter au pseudo Aizea Design. Vous le trouverez dans les notes de l'émission. Et sinon, vous me retrouvez sur Naotech pour le TechScope, notamment l'émission du matin sur l'actualité tech.
C'est sur YouTube, Naotech. Merci Marion. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. J'y suis également. Vous pouvez bien sûr soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Ce deal confiance dont je vous parlais en début d'émission, est-ce qu'il a été rempli? Est-ce que vous avez compris un petit peu mieux ce qui se passe avec Alexa qui écoute vos conversations et avec Julian Assange qui s'est fait arrêter? Si vous avez compris un petit peu mieux, si vous êtes rendu compte que vous êtes dit, ouais, mais à la radio, j'aurais pas eu ces informations. À la télé, j'aurais pas eu ces informations. Si j'avais dû lire 60 articles différents, ça m'aurait pris à peu près 12 heures, comme ça a peut-être été le cas pour moi, pour vous livrer ces informations. Et dans ce cas-là, vous vous dites, ouais, il y a quand même eu quelque chose. Donc, je vais me dire que je vais soutenir l'émission et vous allez sur patreon.com/rdvtech pour regarder de quoi il s'agit. Il y a plein de récompenses sympas en plus de ça. Donc, le lien est dans les notes de l'émission, vous pouvez le faire comme vous le souhaitez et ça prend 2 minutes montre en main. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.